L'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, on est en direct sur Alternante, malgré que ce soit le jour de Noël et que tout le monde a un peu des difficultés à parler hein, suite au réveillon. La SAN continue à faire de la radio, la SAN c'est tout le temps, même les jours fériés, donc Pulsan c'est aussi le 25 décembre. Ce soir une émission consacrée bien sûr au 25 décembre et à tout ce qui peut s'y rapprocher. Nous allons vous parler un peu de l'étoile des rois mages et puis de la naissance du Christ rapidement. Pour ceux qui n'ont pas pensé à le mettre dans leur crèche, il faut le mettre maintenant. Sauf qu'on vous dira qu'il faudra enlever pour mettre plus tard. Bon, on vous expliquera tout ça plus tard. Autrement, nous allons avoir les petites chroniques habituelles, le ciel du mois. Nous aurons aussi les fins du monde astronomique, parce que vous savez tous que le millénaire se finit le 31 décembre. Donc, fin du monde, fin de millénaire, l'apocalypse, etc. Donc, on vous expliquera un peu tout ce que l'astronomie peut vous faire peur pour cette partie-là. Nous aurons aussi, bien sûr, les petites nouvelles du monde, les actus astro, avec notamment un nouveau à la radio, donc il faudra être indulgent, puisqu'il va peut-être faire des bourdes, on va voir. On lui met un peu la pression, mais il n'est pas encore avec nous.
C'est un bon début.
C'est un bon début, ouais. Il aura une excuse, il dira qu'il aurait bu un peu avant. Et puis autrement, on fera peut-être un petit débat astronomique, on va voir un peu ce qu'on va faire. Donc c'est une émission un peu cool, hein, c'est Noël. Il y a même des preuves, voilà, il y a une petite clochette. Donc voilà, maintenant nous allons passer au début du premier thème, c'est-à-dire l'étoile des rois mages par Régis Larcher. À toi Régis.
Oui, alors donc comme vous le savez tous, cette fameuse étoile des rois mages a fait parler beaucoup d'elle, puisqu'on se demande un petit peu ce que c'est. Donc ça se passait il y a 2000 ans, comme chacun le sait.
À peu près.
À peu près. Donc c'est en fait l'apparition d'une brillante étoile dans le ciel, dans le ciel de Judée, qui attira les trois rois mages venus de Babylone vers une crèche cachée dans le village de Bethléem. Alors les historiens et les savants se demandent quelle était cette étoile, à quoi ça peut bien correspondre, quel phénomène astronomique a provoqué ce pèlerinage, à quelle date peut-on retrouver des phénomènes astronomiques importants qui pourraient, je dirais, nous mettre en phase avec l'histoire, justement, nous permettre de dater un petit peu ce phénomène, de vérifier la validité des faits et à quelle époque ça a pu se produire.
Alors que c'est quand même une étoile qui se voyait plus que les autres.
Alors, c'est ça, en fait. On la qualifie d'étoile, effectivement, parce qu'elle était très très brillante dans le ciel. Maintenant, on ne sait pas, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être s'agit-il d'une comète, peut-être s'agit-il d'une supernova ou d'une nova, donc une étoile en fin de vie qui explose et qui devient beaucoup plus brillante l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, qui surclasse en éclat toutes les autres étoiles du ciel. Ça s'est déjà produit en 1054, les Chinois l'avaient noté déjà dans leurs archives. Ou peut-être s'agit-il tout simplement d'une conjonction planétaire, c'est-à-dire d'un rapprochement de plusieurs planètes, parmi les cinq connues à l'époque, qui sont donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
Ou alors un ovni, non ?
Oui, alors on va rester dans les phénomènes astronomiques.
D'accord. Hein ?
Déjà qu'on va être obligé de dériver un petit peu vers, je dirais, quelques croyances ou quelques phénomènes à consonance astrologique. On va essayer de rester assez cartésien. Alors on se demande donc, les historiens surtout et les savants se demandent quel phénomène astronomique contemporain à la naissance du Christ a été en fait assez remarquable pour avoir déclenché ce pèlerinage des rois mages et pour être noté dans les chroniques de l'histoire en fait. Il faut savoir qu'il existait des mages, donc 1000 ans avant Jésus-Christ, il existait déjà des mages, des savants de l'époque en fait, qui connaissaient déjà parfaitement le mouvement des planètes et qui étaient assez familiers des constellations, donc qui étaient tout à fait aptes à repérer un astre nouveau dans une constellation ou un mouvement des planètes connues qui soit un petit peu particulier. Il faut savoir aussi que ces gens-là pratiquaient beaucoup l'astrologie, tout ça c'était très lié, l'astronomie leur servait à prévoir essentiellement la date de Pâques, qui était un phénomène important, une date importante pour eux, et également tout ça c'était très très ancré dans les croyances, dans les mythes et dans l'astrologie, donc qui permettait à ces mages d'avoir un certain charisme et de rester dans les bons termes des gens qui gouvernaient à l'époque.
Vous connaissez la blague avec Pâques ? quand Jésus il foutait le bordel quand il était jeune. Alors il y a son père Joseph qui lui dit « Fais gaffe, hein, si tu fous trop le bazar, tu peux mettre une croix sur tes vacances de Pâques. » Bon voilà, c'était la blague. Allez, vas-y, continue.
Alors donc ces gens-là, ces mages, en plus donc de connaître tout parfaitement le ciel, avaient également, je dirais, étaient initiés aux prophéties, notamment aux prophéties de l'époque qui parlaient de la venue d'un messie. Alors, la venue d'un messie, la transition est vite faite entre le symbole venu du ciel, cette étoile nouvelle qui apparaît et qui peut donc déclencher ce pèlerinage.
Surtout qu'à l'époque, quand même, il y avait beaucoup de phénomènes célestes qui avaient des répercussions, entre guillemets, interprétées au moment du ciel. Jules César, on a eu avec la comète qui s'est recouchée, etc.
Voilà, il y a eu des éclipses, notamment il y a eu une éclipse de lune qui s'est produite, qui a été après dans la tradition retransformée en disant que lorsque le Christ est mort, le soleil, le jour s'est éteint en quelque sorte. Ouais. À la base, c'était une éclipse de lune qui s'est produite, qui dans la tradition populaire s'est transformée en fait en éclipse de soleil. Ouais. Alors donc ces gens-là qui étaient assez, qui connaissaient très bien le ciel, donc ont certainement vu quelque chose qui a pu déclencher leur pèlerinage. C'est donc Matthieu, l'apôtre, qui le premier mentionne cette histoire d'étoile des rois mages, donc hein, de cet astre qui a guidé les trois rois mages tout au long de leur voyage. Ces trois rois mages qui étaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Il n'y avait pas de GPS.
Et en plus, ils ne savaient pas où ils allaient, donc c'est assez compliqué.
Et en plus, les voyages étaient très longs. Voilà. C'était à pied, il n'y avait pas la voiture non plus. Alors, je vous propose déjà de revenir sur cette date du 25 décembre, dans la chronologie, pour essayer un petit peu de remonter l'histoire. Le 25 décembre a été choisi, il faut savoir, au 4e siècle, pour célébrer Noël. Alors c'est en fait, je dirais, la naissance du Christ, mais c'est aussi la christianisation d'une fête païenne qui, à l'origine, a des origines certainement nordiques, et qui est en fait la célébration du solstice d'hiver, à partir du moment où on est au solstice d'hiver, après, les jours rallongent, et donc c'est en fait la célébration du renouveau, parce que la nature
reprend ses droits,
c'est la renaissance, et donc ce renouveau est symbole de naissance quelque part.
Donc en gros, au 4e siècle,
Ils ont officialisé, ils ont christianisé, officialisé cette fête païenne du 25 décembre.
Comment supprimer une fête païenne ? Il vaut mieux en rajouter une par-dessus.
C'était une fête astronomique à l'origine, qui a été transformée en fête chrétienne. Alors donc, il faut savoir que ce 25 décembre de Noël, il y a une plage, pour le mettre en phase avec la naissance du Christ, il y a une plage de dates qui dépend donc des fameux phénomènes astronomiques qu'on aurait pu observer pendant cette période. Alors, en gros, on arrive à concentrer le phénomène entre l'an moins 8 et l'an moins 4 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Premièrement parce que...
ça veut dire que Jésus est né avant son ère.
Il est né avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ.
C'est quand même une info importante. Jésus est né avant Jésus-Christ.
C'était un précurseur. Hein.
Voilà, c'était...
Alors donc, la première des choses, c'est Denis le Petit qui a fixé l'an 1 de la naissance du Christ, arbitrairement, à l'an 753 de la fondation de Rome.
Tout à fait.
D'accord. Mais en fait, ce Denis le Petit avait oublié 4 ans, qui correspondaient au règne de l'empereur Octave. Et donc Jésus est certainement né 4 ans avant Jésus-Christ, au minimum.
Voilà, au minimum.
Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre moins 8 et moins 4. Ça nous fait la première...
Est-ce que je peux faire une parenthèse sur l'an 1, où tu as prévu d'en parler ?
Non, du tout.
Parce que simplement, comme tu as bien dit, il n'y a pas eu d'an 1, d'an 2, en fait, c'est en
l'an
550.
Il a été créé après.
C'est après qu'on a remonté en arrière, on a dit, maintenant on dit que ça c'est l'an 1. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de données 0. Ça n'existe pas. Le zéro mathématiquement n'existe pas. En fait, c'est un artifice mathématique, le zéro. Donc, en fait, ils n'ont pas créé dans zéro. C'est pour ça, en fait, que pour qu'il y ait un siècle complet, ça va de 1 à 101. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, tous les médias plus ou moins cultivés, on ne citera pas de chaîne de télévision, de radio qui n'était pas bonne, sauf Alternante qui disait la bonne chose. C'est que simplement, la fin du millénaire tombe bien en 2001, puisque, en fait, il a commencé en 1901. Et tous les millénaires
ont
l'an 1001, voilà. Donc, c'est pour ça.
Alors le deuxième phénomène qui permet de clore un petit peu cette plage de temps, on a pu dater à l'an moins 8 avant Jésus-Christ, le recensement général décrété par César, et donc ça pourrait expliquer que Marie et Joseph ont voulu échapper à ce recensement et se sont réfugiés dans la grotte de Bethléem.
Donc maintenant, on est rendu à une plage entre moins 8 et moins
4.
Voilà,
c'est pour ça. Ce sont les deux dates qui permettent de centrer un petit peu, les dates butoirs de part et d'autre. Donc entre moins 8 et moins 4. Alors maintenant, quel phénomène astronomique a bien pu déclencher cette fameuse...
S'il y a eu.
Alors, je serais tenté de vous parler d'une légende. D'abord, c'est la fameuse comète de Halley. Une légende entre guillemets, parce qu'elle est très connue. Et la première fois qu'on l'a signalée, c'était en l'an moins 240 avant Jésus-Christ. Et cette comète, qui donc a une période de 76 ans, est passée effectivement dans cette... assez proche de l'an moins 8, puisqu'elle est passée en l'an moins 12. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, ça ne peut donc pas être la comète de Halley qui serait mise en cause. C'est bien dommage, parce qu'on peut la retrouver sur la tapisserie de Bayeux, donc ça pourrait donner un petit peu des consonances qui feraient plaisir à beaucoup de gens. Mais c'est visiblement pas la comète de Halley. Par contre, il y a deux autres comètes qui ont été signalées dans les archives chinoises, dans les chroniques chinoises, qui étaient donc les Chinois de très très grands observateurs, qui notaient scrupuleusement tout ce qui pouvait se passer, connaissaient très très bien le ciel. Ces deux comètes, la première a été visible pendant 70 jours en mars de l'an moins 5 dans la constellation du Capricorne, donc c'est dans notre créneau. La deuxième a été visible, elle, en avril de l'an moins 4 dans la constellation de l'Aigle, c'est toujours dans notre créneau. Ensuite, mis à part les comètes, on pourrait éventuellement avoir l'explosion d'une étoile, une nova par exemple. Malheureusement, heureusement, c'est un phénomène qui est très visible. Malheureusement, ça se produit pas très souvent. Et personne n'en a relaté l'apparition pendant cette période entre moins 8 et moins 4.
Il faut savoir que les Chinois, en fait, ils ont un historique qui est très très ancien.
Très complet.
Donc l'avantage, c'est qu'on a pu, après, quand ils ont ouvert leurs archives, notamment en 1054, on a trouvé qu'ils avaient noté ça, etc.
La fameuse nova de 1054 dont on peut observer les résidus actuellement sous la forme de la nébuleuse du crabe.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a en fait vu que si les Chinois n'ont pas vu,
on peut considérer qu'il ne s'est rien passé.
Voilà.
Alors la dernière hypothèse, c'est le fameux rapprochement planétaire. Ce serait donc une conjonction, c'est-à-dire un rapprochement apparent de deux planètes du système solaire, qui aurait été, contrairement à ce qu'on peut voir assez fréquemment dans notre ciel, ça aurait été un rapprochement vraiment, vraiment très, très proche, si bien qu'à l'œil, on aurait presque pu confondre les deux étoiles.
En fait,
deux planètes auraient pu n'en faire qu'une, en quelque sorte, à l'œil.
Quand on appelle une conjonction, quand on vous l'annonce dans le ciel du mois, c'est un rapprochement assez proche de deux planètes. Alors que là, ça serait apparemment, comme tu le dis, mais quasiment, il serait presque collé visuellement.
Voilà. Si proche qu'à l'œil, on ne pourrait pas faire la différence entre les deux. L'éclat des deux planètes s'additionnant, ça pourrait nous donner une étoile qui serait formidablement lumineuse, en fait. Déjà que Jupiter, à l'origine, est très très lumineuse. Alors, c'est Kepler qui, le premier, suggère cette explication pour l'étoile des rois mages. Il est fasciné, en fait, le 17 décembre 1603 par un spectaculaire rapprochement de Jupiter et de Saturne. Mmh. Et c'est ce qui lui donne l'idée de suggérer cette hypothèse. Or, il se trouve qu'effectivement, il y a eu une triple conjonction de Jupiter et de Saturne en l'an moins 7 avant Jésus-Christ.
Triple, exactement, c'est-à-dire quoi ?
Alors, c'est en fait Jupiter et Saturne qui se sont trouvés très proches l'une de l'autre, quasiment confondues, mais trois fois de suite, à trois dates bien définies. La première date s'est passée donc le 29 mai, un deuxième, ensuite elles se sont un petit peu éloignées, elles sont revenues très très proches l'une de l'autre le 6 octobre, elles se sont encore éloignées, et sont revenues très proches le 1er décembre. Tout ça donc de l'an moins 7.
Donc dans la même année.
Dans la même année.
C'est un phénomène rarissime, ça.
Oui, c'est un phénomène exceptionnel. Il se trouve qu'en fait, on a pu, enfin Kepler, quand je dis on, c'est lui. Kepler, d'après les tables de Tuckerman, alors c'est un monsieur qui a fait des calculs sur la position des planètes, il a en fait recalculé la position de toutes les planètes entre l'an moins 601 et l'an 1649 de notre ère.
Fouilla.
Et par rapport à ces données-là, donc Kepler a pu déduire qu'il y a eu une triple conjonction, donc trois fois la même conjonction, cette année de l'an moins 7. Alors, il faut savoir également que, comme je vous le disais, les rois mages étaient très férus d'astrologie, et à l'époque, dans la constellation des poissons, constellation où s'est produite cette conjonction, cette triple conjonction, la constellation des poissons est associée à Israël. Donc, vous voyez un petit peu le chemin, nous y voilà.
On s'en rapproche.
Voilà, la première hypothèse, ce serait donc que les rois mages ont observé la première conjonction le 29 mai de l'an moins 7 dans les poissons, ce qui les a mis en fait en route dans la direction des poissons. Ils ont donc décidé de, puisque c'était un phénomène exceptionnel,
ils ont suivi bêtement l'endroit où leur indiquait l'étoile.
Le message céleste qu'ils attendaient, puisqu'ils connaissaient les prophéties, ils attendaient un message divin, enfin, du ciel. Ils ont suivi le message céleste. Ils ont donc parcouru près de 1000 km en à peu près 4 mois. Et ils sont arrivés à Jérusalem. Et juste quand ils arrivaient à Jérusalem, ils ont observé le 6 octobre une seconde conjonction. Les planètes qui s'étaient rééloignées sont revenues côte à côte.
Donc ils sont partis en mai.
Voilà, ils sont partis fin mai.
Fin mai, en fait, 29 mai. Au mois de mai, ils ont signal, donc le temps de faire leur bagage.
Oui, on peut dire qu'ils ont pris le train,
transféré leur boulot, leur secrétaire, etc. Donc voilà, ils arrivent au mois d'octobre à Jérusalem.
Absolument.
Et là,
le 6 octobre, début octobre, ils arrivent, seconde conjonction. Là, c'est encore interprété comme un signe du ciel. Toujours dans les poissons, je dirais changement de cap. Ils se dirigent. Non, ça leur donne en fait
la confirmation.
La confirmation, le signe d'arrêter, qu'ils sont arrivés au bon endroit. Et la troisième
feu vert, feu rouge, quoi.
Voilà. Ouais. La troisième conjonction qui a lieu le 1er décembre leur indique cette fois-ci le chemin de Bethléem.
D'accord.
C'est une très très belle histoire.
Ah, c'est sympa. D'accord.
Et donc, ces trois rois mages se mettent en chemin suite à ces messages du ciel. pour arriver finalement à Bethléem. Alors, il y a une deuxième hypothèse, je vous parlais tout à l'heure des comètes qui ont été signalées par les Chinois. Ces deux comètes suivent un petit peu le même schéma.
Principe.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu également, en l'an moins 5 cette fois-ci, non pas en l'an moins 7 comme précédemment, mais en l'an moins 5, on a eu également une conjonction Jupiter et Saturne, qui n'était pas triple, qui était simple, mais qui est certainement interprétée à l'époque comme un phénomène ayant une signification quelconque. Cette première conjonction les met en alerte, en quelque sorte. Ils attendent un signe du ciel, ils attendent le Messie. Le signe du ciel vient en la personne de cette première comète qui arrive au mois de mars de l'an moins 5, et qui leur donne le signe du départ. Donc ils se mettent en route. Ils atteignent Jérusalem beaucoup plus tard, puisqu'ils sont à Jérusalem pour observer la deuxième comète en avril de l'an moins 5, et ça leur met l'avril de l'an moins 4, pardon,
moins 4.
Et ils mettent le cap ensuite sur Bethléem puisqu'elle n'était pas dans la même direction. C'est un petit peu un GPS de l'époque.
Il n'y en a que deux. Il n'y a que deux phénomènes dans la deuxième partie.
Le premier, c'est la conjonction Saturne-Jupiter en l'an moins 5.
Mais là, ils ne se mettent pas en route, si.
Non, ils sont juste.
Ils sont au courant,
ils attendent. Voilà, ils font leur bagage, ils règlent les affaires courantes. D'accord. Et en mars moins 5, ils décident de partir vers Jérusalem.
Ils disent rien, on attend, on attend. Puis tous les soirs, ils observent, et plum, il y a une comète. Donc
dans l'esprit de l'astrologie de l'époque, je pense que ces conjonctions devaient être interprétées comme.
Non, tout à fait.
Comme un phénomène important. Ils devaient être en attente de quelque chose de plus important qui s'est donc présenté sous la forme de cette comète, cette première comète qui les a guidés vers Jérusalem. La deuxième comète, quant à elle, les a guidés vers Bethléem.
D'accord.
Alors, ce qui conforte un petit peu ce deuxième scénario, c'est qu'à la même époque, donc en l'an moins 4, le roi Hérode, qui n'est pas loin de sa fin, en fait, hein, qui est sur le point de mourir, ordonne le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Et ça pourrait justifier justement la fuite de Marie et Joseph pour aller se réfugier dans cette grotte.
D'accord.
De Bethléem. Bref, je pense que de toute façon, on n'a pas des données, pour élucider le mystère, on n'a pas des données vraiment arbitraires, parce que ça tient un petit peu au langage courant, c'est l'histoire répétée, on n'a pas d'écrit, de traces vraiment, je dirais, intransigeantes là-dessus.
Tout à fait.
Donc on ne peut qu'émettre des hypothèses, mais je dirais que c'est toujours beau, ça permet de rêver, et puis la soirée de Noël ne perd pas son charme. Même s'il n'y a pas de phénomènes exceptionnels qui se sont produits.
Non, c'est vrai que les astronomes ont toujours tendance à, quand on leur dit qu'il y a un phénomène important qui s'est passé, à les vérifier. Notamment, il y en a certains qui l'ont fait pour Tintin, qui ont vérifié tous les albums de Tintin, comme l'éclipse de soleil dans l'étoile du soleil, comme ils ont vérifié les données qu'avait pris Hergé dans les objectifs lunes.
C'est un jeu quelque part.
C'est un peu un jeu de voir
est-ce qu'on pourrait retrouver la date de la naissance du Christ. C'est un défi et un jeu.
Pour résumer. Donc on a deux dates, donc on est sûr de manière c'est entre moins 4 et moins 8.
On
ça,
est quasiment sûr.
Ça, c'est
pour qu'un phénomène astronomique d'une telle ampleur déclenche
le départ
des rois mages,
et puis
il fallait que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des gens qui connaissaient bien le ciel. Donc des choses assez exceptionnelles, il y a deux scénarios. Ou bien le premier scénario donc qui part sur une triple conjonction des planètes, donc quelque chose
c'est-à-dire
que répète trois fois les planètes dans, je dirais, côte à côte, qui leur donne un éclat extraordinairement plus puissant que d'habitude. Ça c'est le premier scénario. Le deuxième, quant à lui, qui est donc basé à la base sur une conjonction également, quelque part un signe du ciel leur disant tenez-vous prêts. Et puis ces comètes qui, c'est pas nouveau, étaient de toute façon même au Moyen-Âge interprétées comme des astres porteurs de présages. Ces comètes qui donc déclenchent ce pèlerinage et qui les guident en quelque sorte, parce que c'est un petit peu la première qui les envoie vers Jérusalem, la deuxième qui leur dit de changer de cap pour aller vers Bethléem. Alors maintenant, on peut rêver. Il y a un certain nombre de spéculations là-dessus, mais je pense que ça donne le charme à l'histoire.
D'accord.
Il y a une petite question là, par rapport justement à ces rapprochements planétaires ou ces comètes. Est-ce que les scientifiques sont peut-être posé la question de, parce que on les a observés à plusieurs moments de l'année, donc pas observables, je dirais, sur n'importe quel horizon. Par exemple, voir les poissons dans Jupiter et Saturne dans les poissons en octobre, ça veut dire qu'à peu près les poissons sont plein sud, quoi. Donc, est-ce que les scientifiques ont réussi à refaire le chemin, je dirais, fait par les rois mages?
D'après les chroniques, en fait, enfin d'après l'histoire, les rois mages venaient de Babylone et en fait ils se dirigeaient vers Jérusalem.
Donc ils venaient de l'ouest ou de l'est? Babylone était où à cet évocat?
Bah, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait reprendre une carte.
Il faudrait reprendre une carte.
Mais je pense que les gens qui ont émis cette,
ce scénario. Je crois que les deux, je crois, avoir vu en l'époque, hein, pas l'époque moins 4, mais quand j'avais regardé un peu plus. J'avais cru voir, en fait, que les deux collaient par rapport aux cartes, en fait. Par rapport à l'orientation montée.
Le mouvement des. Je dirais la position des as dans le ciel indiquait bien la bonne.
Donc Caroline nous dit dans la technique que Babylone est à l'est.
Babylone est à l'est. Donc les rois mages allaient vers l'ouest.
Donc vers le poisson.
Donc sud, si, sud, puis après ouest, si, c'est peut-être.
Ça peut coller.
Ouais.
Ah, y a une nouvelle... Et les comètes, c'est pareil, les comètes sont de toute façon brillantes à l'œil nu, quand elles sont au plus proche du soleil.
Et c'est vrai que ça ne dure pas spécialement
très longtemps. Là, on parle de 70 jours pour la première, ce qui est déjà pas mal.
Ça
fait plus de 2 mois, c'est déjà pas mal. Et la seconde, par contre, j'ai pas la durée de visibilité, la période pendant laquelle elle a été visible. Mais effectivement, on peut imaginer que ces comètes ont été visibles le matin, ce qui nous donnerait une direction est, en fait.
Oui, est, oui.
Ouais. Puisque se rapprochant du soleil, c'est le moment où elles sont le plus visibles.
Non, c'est bien, c'est intéressant. Donc, par contre, il y a une dernière petite polémique, je crois, c'est au niveau de la date du 25 décembre pour la naissance du Christ. Puisque normalement, je sais pas, pour ceux qui ont fait leur crèche, hein, vous retournez, pour ceux qui sont chez eux plutôt, vous regardez un peu, normalement, tout le monde a mis les petits moutons atteindre de manger leur herbe, alors que le 25 décembre à Bethléem,
il y avoir de la neige.
je crois que c'est à 300 mètres d'altitude Bethléem, hein, ou 900, je sais plus exactement, c'est 300, 900. Et je crois, en fait, qu'il n'y a pas de moutons le 25 décembre, qui, même en France, hein, pour regarder, les moutons, ils sont dans leur grange, donc le 25 décembre est un peu limite, mais bon. Ouais.
Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au décret de notre ami César, là, qui donc a décidé d'assassiner les enfants de moins de 2 ans, il y a une autre...
Non, c'est pas César, c'est Hérode.
Hérode, pardon. Il y a une autre, un autre facteur qu'on peut mettre en parallèle avec ça, c'est qu'à cette époque, on peut imaginer que les rois mages sont venus non pas en moins 7, mais en moins 5. Ce qui ferait qu'ils sont venus en fait rendre visite à Jésus alors qu'il était déjà né et qu'il avait déjà 2 ans. Ça pourrait être mis en... Et ça pourrait expliquer le fait des moutons parce qu'on serait au printemps.
Oui, par contre, leur direction...
Alors, l'histoire de la direction...
Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui, c'est pas simple. Hein.
C'est pas simple.
Il faudrait dire en fait que ça serait plus la comète, puisque en fait les rois mages... Oui, de manière, les rois mages, ils arrivent pas au moment de la naissance, ils arrivent après, normalement dans la...
En principe, ils arrivent...
On apprend en catéchisme, j'en ai pas fait, mais je crois qu'on apprend qu'il faut mettre les rois mages après dans la crèche.
Alors là, tu me poses une colle. Moi, j'en ai fait, mais c'est longtemps.
Ils mettent que ta crèche, normalement, tu l'as fait, tu mets le petit Jésus, donc le 25, avec l'âne, etc. Bon, bref, on va parler de tout ce qu'il peut y avoir autour. Et je crois que les rois mages, ils arrivent plus tard.
Oui, et c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé justement. Voilà.
Donc en fait, ce serait bien, ils arriveront au printemps, donc là, il y aurait les moutons.
Effectivement, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que cette histoire de moutons, ça.
C'est bien de discuter, on arrive à avoir les infos. Donc maintenant, vous savez que. Donc, la chose importante aussi, c'est quand on vous dit telle date en 700 après Jésus-Christ, il faut rajouter 7 ans. Quoi.
Voilà, je crois que l'essentiel de ça, c'est quasiment confirmé. Il est certainement né entre moins 5 et moins 7.
Voilà. Donc ça, c'est... Bon, on a l'antenne en direct sur Alternante, comme on peut le voir. C'est Noël, donc c'est un peu plus décontracté que d'habitude. Voilà. On a du bordel partout.
Santé,
ouais, à la vôtre. Donc c'était Sheila qui nous parlait, pour ceux qui ont entendu, parce que je sais pas si grand monde a entendu là, ce qu'elle disait. Donc il se dirigeait vers l'étoile du berger. Donc on a prouvé, nous, que c'était pas l'étoile du berger. C'était soit une conjonction de planètes. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que vous avez des verres?
Non, c'est bon, on a envoyé tous les verres.
Bon, bah tant pis.
On a l'antenne, mais c'est pas grave. Donc ensuite, le reste, donc on a prouvé, Régis nous a fait une démonstration incroyable, que les rois mages, c'était... leur étoile, c'était soit une conjonction de planètes, soit une comète, soit l'ajout des deux.
Il y a eu phénomène astronomique maintenant.
Astronomique. Donc voilà, donc on est sur Alternante avec Pulsan, l'émission de la Société de l'Astronomie de Nantes. Maintenant, on va repartir sur une partie lumineuse ou noire, comme on veut, c'est le ciel. Et donc, c'est Frédéric Brion qui va nous parler du ciel du mois. Bon alors à toi Fred, donc on a parlé un peu des rois mages, donc à toi, parle-nous des rois mages.
On va parler un peu des planètes, parce que il y a beaucoup de planètes observables pour ce, je dirais, nouveau millénaire. Donc la première planète qui frappe par son éclat, c'est Vénus, donc qui est très facilement observable le soir, je dirais, au sud-est.
En direction de Babylone.
Hein, au sud-ouest, en plus, tu me fais dire des bêtises. Donc elle a un éclat... elle a un éclat qui ne peut pas vous la faire manquer dans le ciel. Donc ça, c'est Vénus, la fameuse étoile du berger. Alors, je ne sais pas s'il y a des droits mages qui essayeront de la suivre.
Oui, il ne faut pas confondre hein, l'étoile du berger
et puis l'étoile des rois mages.
Voilà.
Donc ça, c'est une première planète observable. Il y a bien sûr aussi, depuis quelques mois, Jupiter et Saturne qui sont... je dirais assez proche d'un des plus fameux amas d'étoiles dans le ciel, qui est l'amas des Pléiades. Donc là, vous les observez dans le taureau. Dans le taureau, voilà.
Bravo. Oh,
cultivez le Thierry.
Je suis sûr qu'il lit des cartes du ciel en cachette.
Voilà. Voilà. Il nous étonnera toujours. Donc, observable dans le taureau. Alors, profitez du 6 janvier pour aussi voir la Lune dans cette partie du ciel. Donc, on aura... Je dirais un peu une triple conjonction.
Pas dans le même sens.
Pas dans le même sens. Où on aura, je dirais, une conjonction avec trois astres principaux qui seront donc Saturne, Jupiter et la Lune. Donc avec les Pléiades et puis, je dirais, Aldébaran et les Iades très proches de ces planètes, ça forme une, je dirais, de très beaux sujets de photos à réaliser assez facilement. Alors, à part ces planètes, il y a aussi une comète à observer, comme quoi... Hein,
mais tu vas nous annoncer la naissance d'un essai, tout à l'heure. Voilà. Entre les conjonctions et les comètes, on va y revenir. Voilà.
Alors, mais si c'est la fin du millénaire, hein. On voit toutes les planètes, maintenant on va voir une comète.
Il va y revenir, je crois, Jésus. Et Jésus revient, la chanson et tout ça, donc il doit revenir. Donc ça se trouve, c'est le départ.
Il y a aussi une comète observable le matin. Donc bon, bien sûr, elle ne doit pas être aussi brillante que les comètes que les rois mages avaient peut-être observées à l'époque. Donc c'est une comète, je dirais, visible avec des jumelles, qui se lève, je dirais, vers 5h30 du matin, donc observable là, plutôt horizon sud-est.
Vers Babylone, c'est ça.
Voilà, Babylone. Elle sera pas très très loin de la planète Mars qui commence à revenir dans le ciel du matin et qui sera, je dirais, très 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 facilement observable, surtout cet été. Donc voilà pour un peu l'actualité astro, mais l'événement, je dirais, du mois est...
De janvier. Quand on dit ciel du mois, c'est du ciel du mois à venir, mais c'est notamment le mois calendaire. Hein.
Voilà, donc c'est la première éclipse de lune du millénaire. Donc cette éclipse aura lieu le 9 janvier au soir. Elle sera, je dirais, facilement observable parce qu'elle est, disons, observable à des horaires assez raisonnables. Elle commencera cette éclipse en réalité vers 8h moins le quart, où là on verra l'ombre de la Terre.
8h moins le quart du matin donc.
Non, 8h.
Le soir.
Du soir.
Ouais, c'est pour ça, il y en a
plein. L'excuser, voilà.
C'est parce que
19h45.
19h45, voilà. Si tu veux que je précise.
Mais non, mais simplement pour les gens, pour éviter.
On va avoir des réclamations après pour tous les gens qui vont se lever à 8h moins le quart.
Quand je dis observable à des heures raisonnables, c'est... je pense qu'il y a très peu de gens qui se lèveraient très très tôt le matin pour aller observer une éclipse. Surtout qu'on n'est pas trop habitué à 9 janvier. Donc cette éclipse commencera donc véritablement vers 8h moins le quart le soir, où là on commencera à voir l'ombre de la Terre passer et manger, grignoter petit à petit la Lune.
C'est avec ça d'ailleurs que les Grecs ont découvert que la Terre était ronde.
Que la Terre était ronde.
Parce que c'est vrai qu'on a beau dire plein de bêtises sur la Terre qui était ronde, c'était découvert après Christophe Colomb ou je sais pas quoi. Non, en fait, les Grecs l'avaient depuis longtemps. Ils savaient déjà plein de choses avant. Puis après, tout s'est perdu. Et en fait, si vous essayez chez vous, vous prenez une lampe, hein, vous mettez un objet. Donc le seul objet qui soit tout le temps rond, quelle que soit sa position, c'est une sphère.
Dans l'ombre.
Dans l'ombre est ronde. Si vous prenez une pièce de monnaie, comme on est obligé que la Terre soit plate, si elle est bien en face, là ça va être rond, mais si c'est un petit peu décalé, ça fait une ellipse.
Une ellipse, absolument.
Donc c'est vrai que c'est important à savoir. Donc,
ils ont même fait une estimation du diamètre de la Terre.
Grâce à
l'ombre portée, ils ont estimé qu'elle était égale à 5 diamètres lunaires. Mais en fait, ils se sont gourés parce que c'est un cône et non pas un cylindre.
Un tube, ouais.
Non, et on pourra, j'y irai encore le vérifier le 9 janvier.
Voilà, mais c'est vrai que c'est bien. Voilà.
Donc après cette entrée dans l'ombre aux alentours du 8h moins le quart, la totalité, donc c'est de dire le moment où l'ombre recouvrira complètement, je dirais, la Terre. Là, il sera aux environs de 9h moins le quart, 9h moins 10, quoi.
Et, 20h45. Ça va
être... Voilà, 20h45. Oh, parlons simplement. Et je dirais cette totalité va durer à peu près une heure dix, quoi. Donc vers 11h, on reverra, je dirais, l'ombre progressivement partir de la Lune. Alors, une éclipse, c'est toujours intéressant à regarder par rapport à la coloration que peut prendre la Lune. Elle a des colorations plus ou moins rougeâtres. Et les astronomes ont même une échelle, je dirais, liée à ces éclipses de Lune. Une échelle, disons, graduée de 1 à 5. 1 pour des éclipses très très sombres, où la Lune est presque invisible. Et 5 pour des éclipses où... on voit très très peu l'effet du passage de la Terre entre le Soleil et la Lune, quoi. Donc essayez de voir si cette éclipse sera vraiment sombre le 9 janvier. Et puis cette éclipse elle finira réellement vers minuit.
Minuit du soir, pas minuit du matin.
Minuit, ouais. Minuit du soir, ouais. Là je crois que t'auras du mal à trouver minuit, ouais, du matin. Ou t'auras inventé je sais pas quoi.
On va attendre Noël, on sait jamais.
On sait jamais, voilà. Donc observez cette éclipse le 9 janvier, en espérant que le temps soit clément. Mais c'est vrai qu'elle est à des heures facilement accessibles et facilement observables par tout le monde. Donc observez sur l'horizon est, elle commencera, je dirais, quasiment à s'enlever, hein, au lever de la Lune. Et au fur et à mesure, cette éclipse et la Lune monteront dans le ciel. Je pense que vers la fin de l'éclipse, elle ne sera pas très très loin du méridien sud.
Mais on en parlera peut-être un petit peu, parce que la prochaine émission, voilà, Pulsan, c'est le 9 janvier.
Non, c'est le 8.
Le 8.
C'est un mardi 9 janvier.
C'est un mardi, voilà. C'est le lundi 8, hein. Donc on en parlera peut-être un petit peu. Mais c'est vrai qu'on préfère vous l'annoncer avant, parce qu'on ne sait jamais.
Voilà, et on
réservez votre soirée.
Réservez votre soirée, et on pourra reparler à la rigueur le 8 janvier de tout ce qui est un peu plus technique, si vous voulez l'observer un peu plus précisément, et bien préparer votre observation du lendemain.
Et prévoir le parapluie.
Ah ça, on espère encore.
Non, l'année 2000, je vous millénaire peut-être.
Et toi, tu vas avec l'histoire des cataclysmes, ouais, dont tu vas nous causer tout à l'heure.
On sait jamais, ça se trouve, il peut y avoir un changement.
Peut-être que l'année 2001 est une année où tous les jours, toutes les nuits, disons, seront belles. Ah, non, on n'en sait rien.
On peut rêver. Merci Frédéric. Maintenant, nous allons aborder, lancer la transition Frédéric, les fins du monde astronomique. C'est-à-dire tous les phénomènes astronomiques qui peuvent nous tomber sur le coin de la gueule, pour comment dire, en parlant proprement, c'est-à-dire comètes, astéroïdes, etc. Donc, à toi, Gilles Guibert.
Bah, la première chose à faire, sortez vos calepins. On a un apocalypse astronomique annoncé à une date précise, à peu près. Prévoyez ceci, dans 4,6 milliards d'années.
Ah, d'accord.
On n'a pas de rendez-vous encore pour le.
Vous avez le temps, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passera dans 4,6 milliards d'années? La Terre va se réchauffer, les océans vont se bouillir, l'atmosphère va être étouffante, bref. Le Soleil va grossir, va devenir une géante rouge, on va être cramé complètement. Autre possibilité de cataclysme astronomique, c'est les hypernovas. Les hypernovas, qu'est-ce que c'est? C'est un truc assez
monstrueux. Ouais.
Tout simplement, c'est deux étoiles à neutrons ou... Des monstres célestes qui sont très proches, qui explosent presque en même temps et qui font un sursaut explosif, mais monstrueux, cataclysmique, enfin bref, tous les mots du jargon apocalyptique. Et qu'est-ce qui se passe si on en a une à peu près à 3000 années-lumière de la Terre? Tout simplement, nous subissons une irradiation totale.
On est pris en radio, en fait. On fait une radio.
Voilà.
Une radio, c'est pratique.
Sauf
ça.
On n'est plus là. C'est dommage qu'on ne peut pas constater le résultat.
Mais comment ça, c'est les trucs utopiques, ça.
Oui, ouais,
c'est pas, non, la fin du système solaire, c'est pas le soleil.
Attention, on a détecté des couples quand même d'étoiles qui sont assez proches quand même, qui peuvent exploser, quoi. Il y en a deux qui sont dans notre banlieue, mais elles sont pour plusieurs milliards d'années. Mais les deux autres, elles sont à 20 000 années-lumière, mais le problème, on ne sait jamais comment le déplacement de la Terre, du Soleil dans la galaxie, ça se trouve dans 20 000 années.
On ne connaît pas leur mouvement propre.
Voilà, on ne connaît pas leur mouvement propre, pas assez. L'autre monstre, c'est les magnétars. Alors les magnétars, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile à neutrons, mais un véritable électro-aimant gigantesque. Et En fait, si vous mettez cet électro-aimant à côté de la Lune, par exemple, vous avez plus de... Enfin, tous vos cartes bancaires, cartes de crédit, enfin, cartes bancaires, disques durs, enfin, tout ce qui est magnétique sont démagnétisés. Vos clés dans les poches, bah, vous les, si vous n'avez pas accroché à votre jean, bah, partiront hop, dans le ciel. Mais le pire, c'est
La voiture aussi, alors.
La voiture aussi, oui, la voiture aussi.
Voilà un bon créneau.
Les lunettes, tu sais, le mec.
Mais le pire, c'est qu'on subira un vent...
De particules.
Oui, un vent de particules tellement énorme, un vent solaire tellement puissant qu'on on subirait les conséquences très mal, quoi. Autre chose, c'est les trous noirs et les mini-trous noirs.
Ah oui, ça c'est mieux, ça.
Il reste du cidre à tes pieds, là.
Non,
non, excusez, c'est Gaël qui crève de soif et qui réclame du cidre.
Est-ce que vous
pouvez ramener le cidre,
s'il vous plaît?
Merci. Ouais, donc, je reviens aux
mini-trous noirs. Il suffit de demander.
Au trou noir, alors un trou noir qui passe dans notre banlieue... pourrait avaler notre Terre très gentiment, mais on peut avoir les mini trous noirs qui peuvent traverser complètement notre planète. Ça, c'est une autre part de... C'est autre chose aussi.
Ça, c'est complètement utopique, parce que les mini trous noirs, c'est un peu...
C'est
un peu imaginaire encore. Hein.
Mmh. On a mis l'hypothèse pour la comète de Tunguska. Mmh. Donc, autrement, les nuages d'antimatière. D'antimatière qui peuvent rôder. Tout simplement, un nuage d'antimatière... Tout simplement. Bon, il y en a qui s'amusent à me...
Bon, vas-y.
Bon, donc, les nuages d'antimatière...
Parle-nous d'antimatière.
Au contact de la matière, la transformation fait annihiler toute matière.
Gaël, il n'y a plus de cidre.
Désolé, Gaël.
Oh. On va avoir une grève sur les bras.
Donc, j'avais soif. Donc, la transformation antimatière-matière donne une explosion d'énergie totale, mais...
C'est avec ça que se propulse l'Enterprise de Star Trek, d'ailleurs.
Oui.
Ouais, peut-être, ouais.
Pour une...
Si.
En plus.
Ah, c'est que ça produit que de la lumière, en principe.
Ah, ouais. Autrement, on peut avoir des perturbations gravitationnelles, tout simplement. Tout simplement. En fait, il faut savoir qu'on a constaté un cycle de cataclysmes, de crises...
stellaires.
Comment ?
D'étoiles stellaires ?
Non, des crises biologiques, avec les extinctions des dinosaures, on a parfois constaté un cycle. Et on a émis l'hypothèse qu'on a une étoile Némésis, comme on l'appelle, qui serait un petit compagnon presque invisible du Soleil, qui reviendrait au périhélie, perturber le nuage d'Oort, le nuage de comète qui est autour de notre planète, et délocaliser une comète et l'envoyer gentiment sur notre planète.
Comme dans les films de science-fiction.
Comme dans ?
Les films de science-fiction. Mm. Donc là, t'as donné une liste de choses pour que les films de science-fiction, ça leur fait un...
Oui, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Autrement, la grosse partie, quand même, c'est les astéroïdes et les comètes.
Ah oui, la partie...
La partie la plus probable, parce que tout ce qui est...
Mais dis-moi, t'as fait des dessins sur tes notes, là ?
Oui, le problème, on peut pas les montrer.
Mais la radio, ça passe pas, Gaël !
Passe pas, ouais.
Alors, vous voyez un nuage que faut les décrire.
Non, laisse-moi, j'ai besoin de ma feuille.
Ah si, il y a des sites qui arrivent.
C'est écrit... Ah oui, d'accord.
J'ai besoin de ma feuille.
C'est la fin du monde.
Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe quand...
Merci, Fred.
Qu'est-ce qui se passe... Bon, ouais,
Mais vas-y, continue.
Qu'est-ce qui se passe quand l'astéroïde de 10 km à une vitesse de 25 km seconde...
Oh, les gars, il parle, Gilles.
Ouais,
oh.
Vas-y.
Arrive sur Terre.
Les fins du monde. Vas-y.
Une comète de combien, là ?
De 10 km de diamètre à une vitesse de 25 km seconde arrive sur Terre.
D'accord.
Tout simplement...
Ça fait combien de kilomètres heure ?
Oh, bah, fais le calcul, hein.
D'accord.
Alors, tout simplement, en une fraction de seconde et en quelques secondes, elle traverse l'atmosphère, tombe dans la couche océanique, dans l'océan, 70%
de la surface terrestre est couverte par de l'eau.
Voilà, ouais. Voilà, la température de la mer, alors, rien qu'à l'impact, va s'élever à 100 000 degrés Celsius. Il faut savoir que la température...
Une fois qu'on pourra se baigner dans l'Atlantique.
Voilà. c'est le Pacifique, c'est bon. En une demi-seconde, de la vapeur d'eau se forme en quantité équivalente de celle de l'atmosphère. Une grosse quantité, quand même. 4 secondes plus tard, on a un cratère de 70 km avec 1 million de kilomètres cubes de débris qui vont s'atteliser dans l'atmosphère. Ensuite, une minute après la collision, le cratère de 70 km va devenir un cratère de 300 km de diamètre.
Royal.
Véro qui fait des illustrations. Mais ça passe pas à la radio, Véro.
Elle illustre le cataclysme.
Oui, mais le problème, ça passe pas à la radio. Donc on continue. En mer, une vague de 1 km de haut se forme et se dirige vers les côtes pour s'atténuer jusqu'à 100 mètres en arrivant
sur
les
côtes. Faire
du surf.
Les surfeurs, en fait. Cool.
De la bonne vie, ouais, des bons spots. Une heure après la collision, les particules projetées dans l'atmosphère sont satellisées dans l'espace.
C'est pas grave, ils sont partis.
Ouais, enfin, justement, après, on verra. Ah. Une onde de chaleur après la flotte, on se prend une onde de chaleur de 2200 degrés qui s'abat sur les continents, tout crame, bref, tout ce qui est forêt, tout crame.
D'accord.
Un nuage de poussière dégagé par les incendies provoque une obscurité totale environ pendant 2 mois. en complément avec
C'est l'hiver nucléaire.
Oui, voilà, ça provoque un hiver nucléaire, tout simplement. La photosynthèse est interrompue, le CO2 augmente, l'O2, l'oxygène diminue. Et
nous, on n'est plus là.
Oui, bah non. Pour les survivants, pour les éventuels survivants, on assiste
à un bloco chez eux.
Tout le monde n'a pas un bloco chez lui. Hein.
C'est pas fini.
Un observatoire astronomique, bien calfeutré.
C'est pas fini, attention. Coupé du rayonnement solaire par l'épais nuage de poussière, on n'y voit que dalle, c'est l'obscurité totale pendant 2 mois. La température...
Pour aller, hein.
Non, c'est pour les étoiles, on ne peut pas les observer, les étoiles.
Pour EDF qui a mis des panneaux solaires, je veux dire...
Et la nuit pendant 2 mois...
Donc la température va chuter.
Mais tu vois rien, c'est la nuit.
La poussière.
Ouais, oh.
La température va chuter.
Vas-y, il fait froid.
La vapeur d'eau qui était condensée dans l'atmosphère
va
se transformer en neige et va avoir...
Ah, donc Noël.
Après les surfeurs, les skieurs.
Voilà, les skieurs.
Il y en a pour tout le monde.
C'est les sports de glisse, ça pulsane.
C'est pas fini. 6 mois plus tard, bon, les poussières vont retomber, la température va augmenter, parce qu'il y aura un effet de serre, mais le problème, l'effet de serre sera assez brusque, il y aura un bouleversement climatique énorme,
bah, non,
une véritable hécatombe pour les quelques survivants.
Non, mais on rigole, mais le pire, c'est que c'est des théories et c'est vrai en plus, c'est ouais, ça. C'est bah, ça arrivait.
Ça peut nous arriver demain. Hein.
Voilà.
Et alors attention,
non, pas alors,
dans les anecdotes,
sauf s'il est dans l'axe du soleil.
Ah, on a, ouais. On a quand même trouvé des astéroïdes potentiels qui pouvaient tomber sur Terre dans les quelques prochaines années, quoi.
Voilà.
Par exemple, j'ai un article sous moi qui prévoit pour le 21 décembre 2030 une chance sur 500 d'un objet qui peut tomber sur Terre.
Ah, pour ceux qui croient que Gilles est à 15 km de micro, c'est pas ça, c'est qu'il part jamais devant, mais bon.
En fait, il est en orbite autour de la table. Ouais.
Et en orbite autour du micro.
Ouais. Autour du micro, tu veux dire.
Et en orbite autour du micro. Vas-y, continue, Gilles.
Ouais, donc, passage devant le micro, vous l'entendez mieux.
Voilà.
Autrement, le 12 octobre 2017, on avait, ou 2027, je ne sais plus quelle date, je ne les ai pas sous moi, hélas, j'ai oublié.
Ouais.
Désolé. Hein.
Ouais.
Sous toi, il faut que tu te lèves pour regarder sous toi si t'as bien. Attends, je regarde, c'est sous moi. Non, c'est pas, vas-y.
Non, chez moi, tu sais, Noël, avec les fêtes.
Voilà.
D'accord. Alors, apparemment, on avait calculé qu'un astéroïde assez important pouvait collisionner la Terre.
Ah, c'est les Américains qui avaient calculé, collisionner.
Ouais, collisionnage. Scratcher, voilà. Enfin, tous les mots que vous voulez, quoi. Boum.
Taper, ça suffit déjà, ça fait moins de syllabes.
Ça fait une véritable fureur dans les médias et tout ça.
Mais on avait des premières pages, ouais.
Ouais, ça fait la une des premières pages.
C'était calculé par les Américains avec Pentium qui buguait, là. Donc, ouais, non, ils avaient calculé ça avec des fiches à trous. Comme les élections.
Ouais, donc. Et le lendemain, on a prouvé c'était. Le lendemain, on a prouvé que c'était impossible. Que ça passait vraiment loin de la Lune, en plus de l'orbite lunaire, et du jour au lendemain, on a eu peur, et puis le lendemain, on s'en foutait complètement.
Mais ça, c'est le problème.
Ça, c'est américain aussi, ouais. Puis les médias,
ils ont fait pareil avec les bactéries soi-disant martiennes qui étaient tombées sur les astéroïdes.
Ouais, en plus, en parlant
et en
de
fait, ils sont quasiment sûrs que c'est des bactéries qui étaient dans l'Antarctique avant, qu'on collisionnait.
Mais attention, en parlant de cataclysme.
En
parlant de cataclysme astronomique, on peut avoir un virus. Venant d'une comète, par exemple, les dernières nouvelles, c'est que...
Ah, le sida est arrivé d'une comète.
Ouais, peut-être, non, ouais. Mais plus drôle encore, c'était la maladie de la vache
folle. Ouais, c'est la vache folle, excusez-moi.
Soi-disant, l'explication, c'est que les vaches en Angleterre restent dehors, même en hiver, elles restent plus longtemps.
Ils ont mangé l'astéroïde.
Voilà.
Ils ont été collisionnés par
elles ont mangé les poussières cométaires qui se sont déposées sur l'herbe. Et soi-disant, elles ont attrapé la vache folle. Mais le problème, ce que je comprends pas, c'est que nos pauvres légumes qu'on cultive dehors...
Non mais ils n'entrent pas la vache parce qu'ils ne mangent pas eux-mêmes. Donc
mais lors du passage de la comète de Halley, c'était en 1910.
En 1910,
il y a eu des paniques comme ça parce qu'on avait passé dans la queue.
Il y a eu pas mal de personnes qui se sont suicidées d'ailleurs.
Si ils avaient détecté du cyanure.
Du cyanogène.
Ouais, voilà, du cyanogène. On avait peur.
Bah en plus, on a les gâteaux de chocolat.
Ouais, les gâteaux. Pour se donner du réconfort pendant le cataclysme.
Ouais.
Et bien, nous aussi, on va en profiter. Vas-y.
Non, vas-y, un petit gâteau avant. Ah, c'est un bon mot.
Si tu parles à bouche pleine,
alors. Bon, bah, vas-y, parle. Fais pas de blanc, là.
Autrement, autre possible. Ouais, pour venir au.
T'as pulsane, c'est en public, on a.
Ouais. Pour revenir aux hypernovas, la première conséquence d'une explosion d'un sursaut gamma, c'est que le rayonnement gamma arrivant, frappant sur la haute atmosphère terrestre. Non, les bonbons, vous en prenez après. Hein.
Attends, la technique, quand même.
C'est gros, ouais, c'est marrant, quand même.
Donc, pour revenir au sujet, la première conséquence, c'est la destruction de l'ozone par les rayonnements gamma. qui provoque un obscurcissement de l'atmosphère terrestre aussi, qui provoque aussi un hiver nucléaire aussi. Mais bon, la chose étant très... Bon, le massage derrière, je te remercie. Donc la chose étant très brève, non, très longue, excusez-moi, l'hiver nucléaire en 2 mois...
C'est pas mauvais.
J'ai pas encore goûté, j'ai pas envie de parier.
Vas-y.
L'hiver nucléaire étant... en 2 mois... Mais bon, alors là... vous pouvez pas sortir un peu, quand même.
Non, vas-y.
Non, l'hiver nucléaire se faisant en 2 mois, on est déjà... on n'est pas là pour assister à faire du ski, quoi, c'est dommage. Mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était les rayons, enfin les vents, enfin les particules cosmiques qu'on recevait à des vitesses proches de la lumière s'enfonceraient, enfin l'énergie est tellement suffisante pour s'enfoncer à plusieurs centaines de mètres dans la Terre qu'on ne trouvera même pas aucun refuge. Seul espoir pour relancer la vie dans les fosses océaniques, les quelques rares bactéries peut-être, qui pourront grimper après quelques millénaires. Sur Terre et...
Donc le plus probable pour les cataclysmes, pas les hypernovas, les nuages, etc. C'est les astéroïdes et comètes.
Il faut savoir
depuis
que
quelques années, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'observatoires professionnels et amateurs qui s'occupent du suivi de la recherche d'astéroïdes. Je pense qu'il y a aussi une part, justement, remercions-les, des médias qui ont, grâce aux films catastrophes et grâce à, je dirais, à toute cette publicité extravagante qui a été faite autour d'Armageddon et compagnie, ça a donné un petit peu peur aux politiciens et peut-être qu'ils ont débloqué des crédits pour permettre justement de surveiller tous ces corps, parce qu'on en connaît que 15 000 je crois sur 150 millions, comme estimé.
Oh, c'est pas grave ça, de toute façon.
Oui, mais statistiquement c'est quand même c'est quand même effrayant, parce que peut-être pas pour nous à l'échelle d'une vie humaine, mais sur l'échelle de d'une civilisation, on a quand même de plus en plus de chances de s'en prendre une, de se collisionner, comme tu dis là.
Bon bah c'est le bordel sur Alternance. C'est l'animateur de la radio qui se rend compte. C'était Gilles qui nous a fait une fin du monde astronomique comme il sait les faire.
Et on peut l'applaudir parce que franchement il était pas aidé avec nous.
C'est bien Gilles.
Merci.
C'est vrai qu'on a on n'est pas des bons auditeurs. Donc maintenant on va faire une petite pause musicale et après on se retrouve juste. Voilà, vous êtes sur Alternante.
Ouais. Oh, c'est passionné encore.
Hein. Oh là, je te jure, j'ai jamais fait une émission de radio comme ça. Donc, c'est Pulsan avec la Société de l'Astrominante, comme quoi on est les gens sérieux qui savent rigoler. On vient d'entendre le Père Noël Noir de Renaud. Je vous rappelle ce qu'on a entendu tout au départ de l'émission, c'était Sheila avec les Rois Mages, mais ça, c'est même pas la peine de le lire parce que j'ai oublié de le lire et c'est trop connu. Donc, maintenant, attention, on va être sérieux. 30 secondes, on va essayer. Parce que là, c'est François Couturier qui nous fait sa première à la radio et je vous jure qu'il part pas dans les bonnes conditions. Allez, ça va être les Actu Astro. Heureusement, ça suit la technique parce qu'ils auraient pu nous mettre des bips et des bops à la place des trucs, mais non, ils arrivent à. C'est les seuls qui suivent le fil conducteur, c'est bien, Caroline. Donc, à toi, François.
Heureusement que je suis là, franchement.
Oui, t'as raison.
Ouais, donc c'est parti, pour commencer je vais vous parler de la station spatiale internationale.
Alors est-ce qu'ils ont fait quel réveillon? T'as des dernières infos là-dessus?
Non, j'ai pas eu d'infos encore malheureusement, mais à mon avis oui.
On devrait les avoir en duplex téléphonique ce soir.
Ouais, on a liaison là, ouais.
Et on va trouver un mec qui nous parle russe, ça va marcher.
Alors donc le premier panneau solaire a bien été déployé, donc ça date du début du mois. Mais donc il y a quelques problèmes parce qu'il s'est pas tendu complètement. L'autre est resté dans son coffre parce qu'une goupille ne réagissait pas à une commande utilisée pour en provoquer l'ouverture. Donc après 2 heures d'effort, au lieu des 13 minutes prévues, les deux grandes ailes d'une envergure de 73 mètres ont quand même pu être déployées. Ces deux panneaux solaires qui équipent désormais la station et lui apportent une puissance 5 fois supérieure à celle que reçoivent aujourd'hui les membres d'équipage est indispensable pour les phases ultérieures de sa construction qui devrait s'achever aux environs de 2006.
Quand tu parles des 2 heures, c'était les mecs qui sont sortis pour.
Voilà, ils sont sortis pendant 2 heures alors qu'ils devaient.
Juste 13 minutes pour brancher puis appuyer sur la lecture. Quoi.
Ils devaient commander ça et ça devait durer 13 minutes. Alors je passe à Mars Global Surveyor qui va jouer les prolongations. Cette sonde américaine lancée en septembre 1997.
Et il s'est pas écrasé?
Non, pas encore, mais ça
n'a plus rien d'autre sous la main pour l'instant.
Donc, qui est en orbite autour de Mars depuis septembre 1997, vient de se voir accorder par la NASA une extension de mission d'un an. À cause d'un panneau solaire défectueux, la mission a accusé une année de retard. Et le satellite n'a pu débuter la cartographie de la planète Mars qu'en avril 1999. La fin de la mission, initialement prévue en février 2001, sera ainsi repoussée en avril 2002.
D'accord.
Les scientifiques de la NASA vont mettre à profit ce temps d'observation supplémentaire pour étudier les régions où ont été observées des traces récentes d'écoulements liquides, ainsi que des dépôts sédimentaires, et pour parfaire la couverture cartographique à haute résolution.
MGS, c'est indispensable pour la suite, voilà, pour se poser, il faut qu'on ait des bonnes images.
Sites d'atterrissage.
Voilà, donc c'est ça en fait. Le MGS se consacrera également à la recherche des sites d'atterrissage des futures sondes martiennes, comme les robots américains prévus pour 2003, ou par exemple le laboratoire d'exploration mobile prévu pour 2007. Donc d'après la NASA, les chiffres communiqués, le coût de l'extension de la mission avoisinerait les 16 millions de dollars, soit près de 120 millions de francs.
Pour l'instant.
Voilà, mais enfin bon, ça...
Mais c'est vrai que le problème des extensions, les gens nous demandent des fois, mais pourquoi en fait la sonde, ça coûte si cher de la prolonger alors qu'elle est partie, elle est partie. Mais le problème, c'est pas le fait de la prolonger, c'est d'avoir des gens qui sont payés pour la suivre. Donc,
c'est ça, c'est en fait, la structure
C'est la structure d'accueil, entre guillemets.
C'est pas l'énergie, en fait.
Non, non.
Alors, on continue à présent avec une découverte extraordinaire. Les astronomes européens du VLT au Chili viennent de découvrir la plus massive galaxie spirale connue dans l'univers.
Ah.
Qui porte le doux nom de ISO HDFS 27.
Voilà.
Cette galaxie se trouve à 6 milliards d'années-lumière de la Terre et sa masse est plus de 1000 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Cependant, comme les étoiles de cette galaxie sont beaucoup moins massives que le Soleil...
Ça en fait beaucoup plus, quoi.
Voilà, il y en a probablement 5000, 6000, voire 10 000 milliards, d'après les estimations. Alors, comparé à notre galaxie, la Voie lactée, il y en a 5 fois plus. Donc, on a coutume d'appeler la Voie lactée une galaxie géante. Alors, comme quoi, on s'est un petit peu trompé. On n'avait pas tous les, pardon, tous les paramètres encore.
Ça, c'est le cidre, hein, qui te...
Voilà, oui, j'ai bu un petit peu pour me détendre et ça commence à faire effet. Et donc, ceci pose des problèmes aux cosmologistes et aux astronomes qui doivent maintenant comprendre comment des galaxies aussi énormes peuvent exister.
Existait, puisque existait. Si elle est très loin, elle n'est plus
oui, aujourd'hui peut-être,
de cette masse.
Ça encore, mais ça, on peut pas, pour l'instant, on peut pas savoir. Donc, des nouvelles à présent des lunes de Jupiter. Donc, Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter, pourrait posséder sous sa surface aride un grand océan d'eau salée. C'est ce qu'ont affirmé les scientifiques de la NASA après l'étude des informations envoyées par Galiléo qui orbite autour de Jupiter depuis 1995.
Donc ça ferait une deuxième alors, parce qu'on a déjà Europe.
Voilà, exactement.
Oh, ils veulent des crédits, eux. Ils cherchent des nouvelles... des
bon, non, parce que le mien, ils veulent pas faire mieux, là. Parce que Cassini Wiggins, elle y va, donc... elle va Saturne, mais bon...
Justement, Galiléo, les sondes là-bas, ouais. C'est vrai qu'il faut du sensationnel.
Ouais.
Donc, les ondes magnétiques mesurées par la sonde spatiale ont en effet suggéré l'existence d'un océan de plus de 1,6 km de profondeur, enterré sous quelques 160 km de rochers de glace. Donc, pour y accéder, il faudra vraiment être assez costaud. Sa température de 9 degrés Celsius, qui est relativement chaude, et qui serait apparemment chauffée par le cœur radioactif de la Lune. Et cette température, donc, comme vous le constatez, n'est pas beaucoup plus froide que celle des eaux entourant l'Antarctique. Donc, oui, on en parlait tout à l'heure, tout ceci n'est pas sans rappeler Europe, une lune voisine, dont on pense qu'elle contient également une mer invisible.
Ce qui est dingue, en fait, c'est qu'ils envoient une sonde qui satellise autour d'une planète, et avec la résonance magnétique, etc., et pas mal d'informations, la royale réponse, ils arrivent à savoir que c'est un océan, et en plus salé, parce que bien sûr, l'océan salé réagit plus, envoie plus d'infos, de champs magnétiques que un océan liquide. Et donc, c'est vrai que ça fait dingue ce qu'ils arrivent à voir, alors en fait, qu'ils ont même pas posé le pied dessus, quoi.
C'est sérieux, Thierry ?
Ça oui. Pour durer. Hein.
Donc je continue avec la liste des exoplanètes qui s'allongent. Donc on en a l'habitude, tous les mois, il y a quelques planètes extrasolaires qu'on découvre. Donc on a découvert trois nouvelles ce mois-ci, qui portent le nombre total de ces astres à 49.
Ah, quand même.
Donc évidemment, on se rappelle de la première exoplanète découverte par les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz en 95.
Des Suisses.
Voilà.
Il était suisse le chocolat qu'on a mangé.
Je sais pas, mais il était pas mauvais en tout cas.
Il était pas mauvais. Comme quoi, ils font des bons français aussi. C'était pas de marque à l'antenne.
Pour revenir au sujet, ces objets célestes évoluent environ 150 années-lumière de la Terre. 20 fois plus proche de leur soleil que la Terre ne l'est du sien, ces planètes ont une température d'environ 2000 degrés Celsius. La masse de la plus petite représente 84% de Jupiter. Il lui faut 3 à 5 jours pour faire le tour de son soleil. La moyenne... Voilà. Pèse 1,3 fois, bon à peu près, hein, la masse de Jupiter et parcourt son orbite en 426 jours. Enfin, la plus grande fait 1,9 fois la masse de Jupiter et accomplit sa révolution en 743 jours. Alors malheureusement, toutes les planètes découvertes jusqu'à présent sont gazeuses, enfin les exoplanètes, pardon, et souvent de la taille de Jupiter, voire plus importante. Mais on ne peut s'empêcher de penser au jour où les astronomes détecteront, avec des moyens beaucoup plus sophistiqués, des planètes telluriques qui pourraient, pourquoi pas, abriter des formes de vie.
Ouais, le principe, en fait, c'est que les détecteurs sont limités, ou les instruments sont limités, et voilà. On peut détecter les choses les plus visibles. Déjà, il y a quelques années, en fait, avant 95, on n'avait pas détecté de planètes extrasolaires. Depuis 95, on sait maintenant, on a bien appris comment les détecter. Donc c'est vrai que c'est important qu'on espère détecter des plus petites, des planètes rocheuses. Après, pourquoi pas autre chose.
Ouais, exactement. Dit, hein. C'est surtout, en fait, le rêve de trouver, pourquoi voilà. pas, une Terre qui pourrait accueillir une forme de vie.
Pour se barrer avant les 4,6 milliards
voilà. de voilà. Exactement. Donc pour finir, une nouvelle de dernière minute qui ressemble en cette fin d'année 2000 à un cadeau de Noël.
Ah.
La NASA nous apprend qu'elle n'abandonne en fin de compte pas la mission Pluton Kuiper Express.
Ah oui, quand même.
Comme cela avait été affirmé il y a 3 mois. Cette sonde qui devait décoller en direction de Pluton en 2005 pour y arriver en 2015 avait vu sa mission annulée à cause de la priorité accordée à la planète Mars.
Mm-hmm.
Donc des problèmes budgétaires, encore une fois. Cette décision avait soulevé une vague de protestations dans le milieu scientifique.
Dans le milieu associatif, nous on a gueulé.
Voilà, exactement, oui. C'est grâce à nous d'ailleurs.
C'est grâce à la SAN que c'est revenu.
Ils ont remis la mission sur pied. En effet, Pluton est la dernière planète du système solaire à n'avoir jamais été visitée par des sondes spatiales.
Même approchée, même de loin.
Hein. Approchée, voilà.
On n'a rien sur Pluton, on a un bout de photo avec 4 pixels qui se battent en duel.
On voit un petit point blanc avec voilà. un satellite.
On a des infos avec la spectro, mais en image visuelle, on a quasiment rien.
Alors le problème qui se pose en fait, c'est que Pluton, qui effectue sa révolution autour du Soleil en 250 ans, s'éloigne actuellement rapidement de la Terre parce qu'elle se situe sur une orbite très elliptique, dont le point le plus éloigné se trouve à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre.
Donc, enfin là, y aller quoi.
Voilà, la première décennie en fait est propice, première décennie du XXIe siècle est propice et c'était la dernière chance pour aller visiter Pluton. Et la NASA a décidé d'engager 500 millions de dollars pour appliquer cette mission.
Ouais, c'est vrai que le problème, c'est que si on n'y va pas maintenant, en 2005 voilà. ou 2000, si on ne la lance pas maintenant, Pluton va être trop trop loin pour
pouvoir peut-être ouais. attendre une centaine d'années.
Voilà, c'est ouais, la folie.
C'est soit maintenant, soit dans 250 ans, c'est-à-dire le temps que Pluton.
Si en fait on lance toujours les sondes, c'est un peu pareil avec Mars, on lance les sondes tous les 2 ans, puisque en fait la proportion, en gros, c'est toutes les 28 mois ou
je ne sais plus exactement. Les
rapports, voilà. Donc en fait, on profite du moment où ils sont les plus proches. Caroline, rallume le micro à Fred, il a fini de faire ses bêtises. Là, c'est bon, tu peux parler dans le micro.
Il disait, ouais,
bon, bah, merci François, ça a été en fait ce premier.
Ouais, ça va, vous avez été gentil avec moi, ça va.
On n'a pas posé de questions trop vaches.
C'était même bien, ouais.
Ouais, non, c'était bien, il se débrouille bien. C'est bien. C'était pas évident parce que dans les conditions qui sont, avec Gaël qui fait plein de bêtises, il fait des grimaces pendant toute la partie. Bon, maintenant, on va
nous annoncer le grand débat.
Le grand débat. En direct live, en direct, sur Gaël, à toi de nous lancer.
Pardon ? Ah oui, mais je sais pas, Fred tout à l'heure était en train de feuilleter.
C'est pour ça que son micro était coupé.
Est-ce qu'on a le droit de dire les noms des magazines ? Oui.
Oui, vas-y.
S'il y a des espaces. Et puis il est tombé sur. C'était quelle page ?
Un excellent article sur le pastis.
Vas-y, voilà.
Sur le pastis, alors vas-y.
C'était une similitude entre les couches d'atmosphère, voilà, et puis la diffusion relais qu'on peut avoir dans le pastis. Alors comment ça se passe ? Bah, attends, tu m'ouvres ça là, mais à toi d'introduire le truc aussi là. Puisqu'on est dans le sujet, hein, astronomie alco. on a trouvé un truc parfait hein, qui faisait le compromis des deux. Donc, on a un mixte de la diffusion relais et MIE, la diffusion MI. Alors, s'il y a des physiciens très avancés ici qui nous expliquent.
Il y a des lettres comme ça, les trucs bizarres. Hein. Ça me rappelle le calenda, ça.
Voilà, le calenda. Ah oui, calenda sur deux, oui. Et donc, Fred, je te laisse la parole. Quel est le processus de versation, de collisionnage entre le pastis et l'eau ?
Alors là, c'est très très dur à expliquer.
Alors, en fait, c'est une corrélation avec par rapport à la diffusion de la lumière dans le pastis, c'est ça ? C'est contrairement à
la diffusion de la lumière.
Mais parle dans le micro, t'entends pas si t'es à 15 km.
C'est le parallèle entre la diffusion de la lumière, j'ai l'impression, dans l'atmosphère terrestre. Qu'est-ce qui donne la couleur de l'atmosphère terrestre et qu'est-ce qui donne cette même lumière dans le pastis ?
Bon, on va faire des questions simples pour les gens, parce que après le bazar.
En fonction de la concentration du pastis dans l'eau.
Voilà. C'est très important. Qui nous répond quand le ciel est bleu ? Pourquoi le ciel est bleu plutôt ?
Ah ah. Est-ce que... oui, allez-y Gilles.
Pourquoi le ciel est bleu? Tout oui. simplement par la présence d'azote. En grande partie, je suppose. Non
loupé, c'est pas le bon.
C'est pas bon.
Allez, réessaye.
C'est pas bon. Bon, non.
C'est les schtroumpfs, ouais.
Mais bon, je suis...
c'est des particules de chaume qui ont été satellisées.
C'est la diffusion de la lumière, en fait.
Voilà.
Et il faut savoir que les longueurs d'onde se...
Oula.
Si. Le bleu se diffuse beaucoup plus que le rouge.
Voilà, c'est ça.
Et pourquoi est-ce que c'est rouge, pourquoi le soleil est rouge, par exemple, le
soir? C'est pas du tout à cause de l'azote.
Parce qu'il y a une plus grande épaisseur d'atmosphère à traverser, et les particules de diamètre plus important sont aussi émettent dans le rouge. Enfin, diffusent la lumière dans le rouge.
C'est bien, Régis. Un point. Qu'est-ce qui fait les scores? Bon, alors, Gaël, t'as réussi à lire ton pastaga, là?
Non, mais il y a une expérience assez insolite. Il y a une expérience assez insolite que nous propose Ciel Espace. Ils nous disent, en regardant le verre perpendiculairement, alors le verre dans lequel est le pastis. Hein,
mais avec de l'eau, c'est
je sais pas.
Hein. Et je pense que c'est dilué, parce que non dilué, ça porte aucun intérêt. Le pastis, c'est un liquide normal. Hein.
Alors je reprends, Thierry.
Voilà.
Lorsque je reprends, assez Thierry. Dilué.
On ne peut pas mettre une musique à la gagner des millions là derrière pour...
Je vois.
En regardant le verre perpendiculairement, réponse A, à la direction du soleil. Réponse B, vous observerez donc des reflets bleus. J'ai bien dit bleus. Tandis que la lumière d'un briquet projetée à travers le liquide, faut faire chauffer le Ricard, quel gâchis, hein. Arborera, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire arborer ici?
Oui, montre.
Des teintes rutilantes.
Le pire, c'est que c'est un bordel, mais c'est, le pire, c'est que c'est vrai, en plus, ça marche.
Mais alors, on ne dit pas de bêtises, hein. Là, on ne fait que citer, je ne sais pas, c'est une expérience
assez... Il n'y a pas de place à gagner, non? Non, il n'y a pas de place à gagner, non.
Si, il y a un voyage sur Jupiter à gagner, il y a une belle photo.
Donc voilà, hein.
Donc bon. En fait, alors, réexplique, parce que j'ai pas compris, le pastis, tu remplis un verre de pastis dilué, c'est ça?
Voilà, c'est
ça.
C'est
pas pour boire, c'est pour faire une expérience.
Ça devient un verre transparent.
Voilà, un verre transparent.
Hein, et puis on met le...
des questions astronomiques, hein, parce que gastronomique ça porte aucun intérêt. Vous téléphonez à Alternante 02 40 93 26 62, on vous passe en direct et puis c'est tout.
Voilà.
Posez votre question et on vous répond.
Allô, Macha? C'est Macha.
Bon, vas-y, finis ton pastaga, toi.
Alors.
02 40 93 26 62.
Voilà, donc l'expérience est de pointer le soleil avec le haut du verre, hein. Pas dans l'autre sens, sinon il n'y a plus de pastis. Et
ça, c'est la théorie de la gravité, on va pas rentrer dans tous les détails. Là.
Voilà, exactement. Et on observe des teintes bleues. Alors je mets au défi quelqu'un de me trouver des teintes bleues dans le spectre du Ricard.
Dans le spectre du Ricard.
Voilà.
C'était le débat. Mets de la menthe
dedans, hein. Ah, mais ça s'appelle un quoi? Perroquet, voilà.
Un perroquet?
Ouais, un perroquet avec de la menthe.
Ah, d'accord, je crois que c'était du Jet 27 à la menthe. On peut mettre du Jet 27.
Ah mais là c'est des marques, donc ça marche pas. Bon, plus astronomiquement et moins d'alcool, hein. Vas-y, t'as quelque chose à nous dire?
Je sais pas, là je vois une belle tache rouge de Jupiter. Mais pourquoi on me confie ça, moi?
Je sais pas.
Il y a au moins 15 personnes dans 9 mètres carrés là, et puis...
C'est vrai que là...
Surtout ça t'a de voir du pastis, alors.
Si, que dire de plus?
Donc il y a quand même des choses importantes. La fin du millénaire, c'est le 31, on pourrait faire la grosse teuf, hein.
Exactement.
Pas hésiter. Le début du prochain, c'est le 1er janvier, donc il faut être encore une teuf. Pour la fin et une pour le début. Ça fait deux teufs.
À propos des psychoses de fin de millénaire, de fin de siècle, pour essayer de faire le lien à ce qu'a dit Gilles, il ne s'est pas trop révélé dans nos temps modernes de psychoses de fin de siècle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu tellement de divers.
Si, les millénaristes, on appelait les millénaristes qui parlaient de l'an 2000, qui étaient incompétents par définition, puisqu'ils croyaient que la fin du millénaire se passait en 2000. Il y a eu des... c'est le siècle de temples solaires, je crois, qui sont suicidés. Il y a eu des trucs un peu... ça a été... pas trop grave, mais c'est vrai qu'on a eu de la chance de pas avoir trop de morts entre guillemets suite à des fins du monde annoncées.
Oui, parce que
il y a encore des gens qui lisent leur horoscope, donc tu sais.
Oui, tout à fait, oui. En l'an 1000, par exemple, il y a eu une à l'époque au Moyen Âge, mm-hmm. Il y a eu vraiment, les récits racontent toute cette vague de suicides. C'était lié surtout à des croyances, à des...
C'est vrai que quitte à mourir dans notre souffrance, autant de mourir proprement, quoi. C'était ça, en fait, le principe.
Oui.
Oui, mais voilà. On a connu des vagues de panique quand même assez récemment, quoi. Parce que, par exemple, la comète de Halley en 1910, on a eu des vagues de suicides, on a eu des...
Non, mais il y a des milliardaires aussi, parce qu'en fait, les mecs, ils vendaient des masques à...
Oui, des masques à gaz.
Des masques à gaz qui marchaient pas, d'ailleurs, mais bon. Donc, ils vendaient leurs masques, donc les gens, ils achetaient leurs masques. Donc, bien sûr, les tarifs...
Même une banque d'assurance qui proposait des indemnités.
Tiens, pour les assureurs, c'est pas mal, ça.
C'est meilleur que les lunettes Eclipse.
Ouais, c'est meilleur que les lunettes Eclipse.
Oui, c'est vrai que c'est...
Ah, mais nous, les lunettes qu'on a vendues, elles marchaient.
Ouais, voilà.
Même contre Paco Rabanne.
Ouais, même contre Paco Rabanne. Ouais, mais Paco Rabanne, c'est un...
D'ailleurs, pour l'éclipse de lune, ne mettez pas les lunettes. C'est clair, hein. Je voulais revenir là-dessus. Hein.
Ouais, l'éclipse du 9 janvier, faut pas mettre les...
C'est fondamental.
C'est vrai.
Vous n'allez pas nous appeler après, vous dire, mais oui, mais j'ai pas vu l'équipe de lune, pourquoi vous avez vendu des lunettes d'équipe solaire il y a 2 ans, etc. Surtout qu'il a fait, de la pluie. On n'a pas pu l'avoir. Donc vous pouvez observer. Je dis ça parce que dans notre voyage, on avait quelqu'un qui avait peur même de voir. Pour ses propres yeux, de voir l'éclipse totale du soleil pendant que on peut enlever, en fait, le seul moment où on peut enlever les lunettes
dans
le cas d'une éclipse solaire, c'est au moment de la totalité ou la couronne solaire.
On a eu tout, en fait, on se rend compte que les associations et puis les astronomes professionnels ont du boulot, parce que c'est vrai, quand on a eu des gens qui avaient acheté des lunettes spéciaux pour des lunettes qu'ils avaient achetées pour le mettre sur leur
lunettes
chien.
Spéciales.
Spéciales. Pas français, ouais, Thierry.
Lunettes, ils avaient qu'une demi-lunette.
Voilà, qu'une lunette pour leur chien, pour éviter que le chien ait un problème de vue. Il y en a, hein, qu'on entend, c'est de la folie, hein. Ouais. Ils ont acheté leurs lunettes pour leur chien, donc.
Exact, j'ai entendu.
Comme si les chiens allaient regarder au télescope ou regarder les. Qui sont dans la foot, eux, qui ont une éclipse de soleil. si, ça perturbe les animaux, mais non.
Oui.
À part ça. Donc, ouais, comme dit Gaël, les lunettes Eclipse, vous pouvez en servir en fait, hein, pour ceux qui les ont encore. Vous vérifiez quand même qu'elles fonctionnent toujours bien. Normalement, si vous avez bien stocké, elles devraient fonctionner toujours.
Normalement.
Si vous n'êtes pas assis dessus, si vous n'avez pas fait du piercing dessus.
Voilà,
avec
faut pas qu'elles soient ni percées, ni rayées. Voilà.
Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est pas des lunettes jetables, hein, c'est-à-dire qu'elles servent tous les jours quand vous voulez regarder le soleil. Vous pouvez regarder le soleil avec les lunettes.
Mais on n'a pas le droit de conduire avec aussi. Hein,
ah ouais, si tu conduis c'est avec les lunettes et en plus tu téléphones en même temps, s'il y a un flic qui te pop. C'est vrai que t'es foutu.
Tu lui dis que t'as des lunettes de soleil.
Ouais, des lunettes de soleil. Ouais.
Il pourrait te croire. Hein.
C'est vrai que les lunettes éclipse, donc ne pas les utiliser pour l'éclipse de lune, ça porte aucun intérêt.
Voilà.
C'est bien. T'as présenté de le préciser au cas où il y aurait des gens qui voudraient le faire. Sur quoi on aurait des réclamations, des plaintes et tout ça, donc pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Voilà, il n'y a personne. Bon, alors, qu'est-ce que quelqu'un nous a téléphoné à la technique? Donc, personne nous a téléphoné. 40, 93, 26, 62, vous savez, c'est des espèces de combinaisons en plastique avec des espèces de petites touches numérotées. Et alors, vous faites un 0, donc c'est les, voilà, 2, 02, 40, 93, 26, 62. Si vous avez des questions pièges, n'hésitez pas. Bon, on va parler d'XMM un peu, parce que on va parler un peu d'un
c'est peu de sujet. C'est une marque de voiture ou...
XMM, ouais. Alors, pour... ouais, en plus,
c'est la XM en plus grand.
Non, mais je crois qu'il a changé de nom, en fait. Stéphane Legas, dans ses dernières Actu Astro, nous a parlé qu'il est, je crois que c'est Newton qui allait devenir.
Ah oui,
c'est même Newton, je crois.
Ah oui.
Qui est un observatoire qui a été lancé et qui fonctionne. C'est un observatoire européen, je crois. Un télescope XMM.
XMM.
Non.
Ouais, peut-être. Non, change de sujet. Tourne dans les pages et trouve un autre sujet. Thierry, merci. 21 juin 2001.
Exactement.
Nous en parlions.
Nous parlions. J'avais raison en plus.
C'est vrai, il a raison.
21 juin 2001. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir les prix de la prochaine éclipse?
Ouais, vas-y. Mais donne pas de marque, mais. Donc c'est l'éclipse, oui, quand même l'éclipse, on parlait d'éclipse pendant le temps qu'on a l'éclipse. Donc la prochaine,
oui, il faut le dire quand même, hein, faut le dire. Il y a une prochaine éclipse de soleil.
En 2001.
Événement rare dans le monde toujours, mais en 2001, le jour de la fête de la musique,
voilà.
Le 21 juin.
Le 21 juin, qui sera observable, j'irai dans le sud de l'Afrique.
Voilà, et jusqu'à Madagascar, ça traverse le Niger, Nigeria.
Oh,
non.
Nigeria.
Nigeria sans
le problème. Nigeria, oui. Non.
Où est le Nigeria, Thierry?
Ça commence.
Angola.
Oui, enfin, disons que ça commence dans l'Atlantique. Et on va dire 12h45, ça atteint.
Après,
la...
du midi.
Hein.
12h45 du midi, oui.
Ouais.
Une heure moins le quart, donc.
Oh, TU, attention.
TU, ah oui, TU. TU, temps universel, c'est-à-dire à l'heure solaire, là nous sommes en avance d'une heure sur le soleil, eh bien ça atteindra les côtes, c'est quoi, ouest à gauche là, oui, les côtes ouest de l'Angola, et ça traversera l'Afrique pendant à peu près, oh, ça va vite, hein. Ça va en...
Ça va vite.
Ça va vite, mais il n'y a plus de...
Les émissions Pulsan sont quand même plus structurées de ça. Parce que
en une demi-heure. Et ce sera le coucher de soleil. Enfin, il sera bas sur l'horizon au niveau de Madagascar.
Madagascar.
Voilà. Voilà. Alors, quand même pour les prix.
Hein. Donc, cite pas de marque, hein, mais
les prix,
donne des échelles.
Pour un voyage de 48 heures, vous aurez quand même le voyage à 5000 francs.
Donc là, c'est-à-dire que tu prends l'avion, tu y vas, t'atterris, tu regardes, tu repars.
Voilà. Avec, c'est ça. Avec l'option camping.
Est-ce que t'atterris?
Avec l'option camping, quand même.
L'option camping.
C'est précisé.
Et par contre, tu vas où, là?
Alors là, tu vas au Zambie.
Zambie, ça va à peu
Zambie,
près.
Donc au milieu de l'Afrique.
D'accord.
Et on va prendre le plus cher. Alors, 14 jours, toujours au Zambie, 39 000 francs.
Oh là, t'as quoi, là? Alors, t'as l'hôtel fourni ou pas?
Lodge, hôtel, ça doit être un hôtel 4 étoiles, quand même, parce qu'à ce prix-là...
39 000 balles, ouais, vaut mieux.
39 000 francs, et puis sans doute un petit voyage vers les chutes du Zambèze, je pense.
C'est poli.
J'attendais. Mais tu te renseigneras, Gaëlle, elle se trouve bien en Afrique, près du lac Victoria, si je ne me trompe pas.
Bien, quelle culture, c'est impressionnant. Culture, à la Sagne, hein. Il y a des gens... Il y a des gens normaux, puis il y a Gaëlle.
Voilà. Facile, facile.
Voilà. Donc bref, pour ceux qui veulent partir...
Est-ce qu'il est encore temps de réserver?
Il faut quand même préciser que le nombre de places est limité. Hein,
ouais. Oui, bah oui.
Le voyage à 39 000 francs, c'est que pour 30 personnes.
Bah déjà,
pour 30 personnes, hein. Ça sera vraiment très très limité. Par contre, le voyage à 5 000 francs, c'est pour 170 personnes.
D'accord, donc il y a des marges.
Donc là, je dirais, ils envoient...
Bah, pour ceux qui ont Internet, ils cherchent un peu sur Internet.
Alors là, ouais, vous trouverez ça. Bah, dans le...
Alors on peut vous donner éventuellement les coordonnées.
Oui, vas-y.
Pour réserver le petit voyage à 5 000, là...
tout ce qu'on vous dit, c'est vrai en plus. Hein,
c'est... Non, mais là, c'est pas des bêtises. Hein. Voilà. 02 97 47 09 97. 02 97 47 09 97.
Appelez peut-être pas maintenant parce qu'ils vont être occupés là.
Alors, on prend l'extrême, le voyage à 39 000. C'est celui-ci là ? En blanc là ? Non, en... oui, d'accord. 01 42, donc région parisienne, 77 99 55. 01 42, 77 99 55. Que des multiples de 11 à la fin. 7 9 5. C'est le chiffre impair. Voilà.
Parfait. Ça, c'est de l'info.
Bon. Page suivante. Page suivante.
En fait,
il y avait la petite clochette là.
Si,
il y a les clochettes.
Bon, on va quand même vous dire qu'en janvier, il y aura comme la semaine de l'astro, du 23 au 20, du mardi 23 au 27, c'est ça ?
Téléphonez à la SAN, vous verrez.
Voilà, téléphonez à la SAN, donc 02 40 68 91 20, et donc on vous répondra pour les nouvelles, pour les conférences de la semaine de l'astro.
Qui se trouve aussi dans le magazine.
Dans le site internet, où on me souffle derrière, donc c'est san-fr.com, et c'est un site internet sérieux. Qui n'a rien à voir avec les émissions de radio de ce soir. Vas-y, pourtant, continue.
C'est la même production. Hein.
Ouais, c'est la même production pourtant.
Il faut lire très très vite. Hein.
D'accord, d'accord. Vas-y.
Ah oui, nous sommes dans le ciel et l'espace.
Soirée nantaise.
Un marathon de conférences.
Ah oui, ça c'est nous ça.
Ça vous tente? Et c'est la question qui est posée.
Parle en face du micro, parce que tu es
là. Ah, mais avez-vous pensé à annoncer la semaine de l'astronomie?
Et c'est ce que je faisais pendant que tu faisais.
C'est ce qu'on vient de faire.
Ah ouais, je viens de le faire.
Merci Gaël. C'est vrai. J'atterris. C'est en fait la diffusion relais dans le pastis, oui, là, qui me... Joué des tours. Donc on vient de le faire. D'accord, avec le couple Colin...
Zan.
Colin Zan, pas Zan.
Zan.
Colin Zan.
Zan ou Zan, je sais pas.
Non, mais Zan. Couple Colin Zan, donc des élites quand même en matière d'astronomie. Qui reviennent nous voir pour clôturer la semaine de l'astronomie.
Comme disait Frédéric, clore, on dit. Clôturer était accepté, clôturer, mais ça, oui, fait, oui. Ça fait un peu que ça fait un peu fermier.
Oui, non, non.
Alors, ça fait un peu chimiste.
Ou chimiste. Hein.
Alors, bien.
Il feuillette le bouquin. Ah non, je le crois pas. Ah, ça fait ding-ding-dang.
Éclipse de lune, on en a parlé tout à l'heure.
Éclipse de lune.
On en a parlé, ouais. Donc oui, donc quand même l'info à retenir, éclipse de lune, 8 janvier, t'as pas dit, il faut que Claudie...
9 janvier.
9 janvier.
9 janvier.
T'as pas regardé, il y a Claudie André Direct qui devrait y aller à l'ISS.
Ouais, dans l'ISS, ouais, mais ça c'est... J'ai pas le temps de noter vu que
ouais,
j'ai
ouais, que l'info est tombée ce soir, donc ouais. Claudie André Direct, quand même une
qui
française...
Qui va aller faire un tour dans l'ISS, ouais.
Qui va aller faire un tour dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour aller... je sais pas ce qu'il va aller faire d'abord. Pour l'instant, on n'a pas encore d'infos, mais elle va y aller. C'est prévu. À toi. Ah, dépêchez-vous, ouais. Il ne reste plus 30 secondes, il faut que je conclue.
30 secondes. Oh ben, pendant l'éclipse de lune, essayez d'observer des éclipses, du moins des occultations rasantes, donc des passages d'étoiles qui vont
passer, à côté
passer très très près du relief lunaire, disparaître et apparaître, et ainsi de suite, peut-être plusieurs fois.
Merci à tous, c'était Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes, c'était le 25 décembre en direct, avec tous les... Voilà, allez-y un peu, parce qu'on ne sait pas que c'est en direct. Donc c'était Pulsan, la prochaine émission c'est le 8 janvier, merci à tous les participants, et à la technique, Caroline là-bas qui nous fait des grands signes, même si elle les fait pas, mais vu que les gens ne nous voient pas, je peux dire ce que je veux. Donc la prochaine émission c'est le 8 janvier, bonsoir à tous, et n'oubliez pas, à la Saint-Noël, l'astronomie est une science universelle.